Et nouvelle édition de l'économie en question. Nous parlons bien sûr de la Grande-Bretagne. Sortira-t-elle ou non de l'Union européenne? La question sera tranchée maintenant dans moins d'une semaine. Brexit, nom devenu familier dans toute l'Europe, bien plus que Remain, nettement moins connu. Est-ce un signe? Cela veut dire la Grande-Bretagne reste, ne l'oublions pas. Logique de s'intéresser en tout cas à l'éventualité d'un événement qui constituerait une première historique pour l'Union européenne et avec des effets imprévisibles. C'est ce qui d'ailleurs la rend passionnante. Incontestablement, le choc d'un Brexit serait donc sérieux, apporterait du moins dans un premier temps beaucoup de confusion et d'incertitude. Depuis de nombreux mois, les milieux économiques, autant peut-être même plus que le monde politique, tentent d'en évaluer les conséquences pour l'Union, bien sûr, singulièrement pour la zone euro, avançant de nombreuses hypothèses plus ou moins alarmistes, pour la plupart quand même assez réticentes à ce retrait. Mais la Grande-Bretagne elle-même, deuxième économie de l'Union européenne avec une contribution de près de 16% au produit intérieur brut global, aurait-elle davantage à perdre que l'Union européenne en cas de sortie votée par ses électeurs? Quels secteurs seraient les plus concernés? Quelles conséquences immédiates ou à plus long terme? Et au fait, dans quel domaine aurait-elle à y gagner? Nous faisons un inventaire à notre mesure et en compagnie de nos invités. Livre sterling, banque, bourse, marché, ce qui va changer ou pas au Royaume-Uni. Et nous sommes en compagnie de Catherine Mathieu, économiste senior au département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Catherine, spécialiste du Royaume-Uni. Anton Brender, que je salue aussi, chef économiste chez Candriam, société de gestion. Et Philippe Askenazi, directeur de recherche au CNRS et qui était chercheur invité du National Institute of Economic and Social Research, des recherches économiques et sociales, et qui a donc à ce titre passé plusieurs mois à Londres. Bienvenue à tous les trois. En toute fin d'émission, je vous ai demandé de venir chacun avec un chiffre, hors notre sujet si possible. C'est l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Bienvenue à tous. Il est vrai qu'on parle de Brexit et pas beaucoup de Remain. C'est peut-être un peu surprenant, Catherine Mathieu. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre en avant ce terme-là?
J'ai un peu l'impression qu'on joue à se faire peur, hein, parce que quand on regarde les sondages depuis plus d'un an sur cette question d'une sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union européenne, en fait, les sondages sont très partagés et donnent tour à tour les partisans du maintien dans l'Union européenne en tête ou ceux d'une sortie de l'Union européenne en tête. Et il y a toujours un grand pourcentage d'indécis de l'ordre de 20%.
Alors, en fait, moi, j'ai un peu moins ces derniers jours, quand même, une tendance.
Voilà,
plus nette quand même.
Une tendance plus nette, effectivement, vers la sortie. Mais tout ça est très, en fait, on sent bien que tout ça est très fragile et les sondages vraiment ne nous permettent pas de dire clairement qui va gagner. C'est ce qui fait aussi un des attraits, hein, de cette question notamment pour nous en France, hein. On se demande qui va l'emporter, ceux qui restent ou ceux qui sortent. Mais je crois quand même que c'est plutôt le maintien qui va rester dans l'Union européenne. Alors évidemment, si c'est le maintien, il ne se passera pas grand-chose. Mais si c'est la sortie, de nombreuses questions vont se poser.
Donc pour le maintien, je ne vous demandais pas un pronostic, mais en voilà un, en tout cas, de la part de Catherine Mathieu, de le vôtre, Philippe Askenazi, on peut le dire.
Mon diagnostic, en tout cas sur la question Brexit, c'est tout simplement parce que justement, il y avait une idée que le Remain serait un non-changement. Et donc, il fallait réfléchir sur la rupture que représentait le Brexit. C'est pour ça qu'il y a eu une concentration autour de ce terme. C'était pas parce qu'on anticipait un succès ou qu'on voulait véritablement se faire peur. D'ailleurs, il y a 6-8 mois, personne ne n'aurait misé le moindre
pain
sur une sortie potentielle de la Grande-Bretagne. Voilà, le fait est que aujourd'hui, le sujet est véritablement sur la table et je pense que dans tous les cas, ce débat aura révélé des fractures extrêmement importantes en Grande-Bretagne et laissera des traces, quel que soit le résultat. Donc on est plutôt sur une situation post-référendaire sur laquelle il faut réfléchir, que ça soit une sortie ou un maintien.
Antoine Brender, parlons de, il y a plusieurs sujets, hein, bien sûr, je ne sais pas lequel vous mettriez en avant dans ce débat. La livre sterling, quand même, en cas de sortie de l'UE, est-ce qu'il faut s'attendre à un choc monétaire autrement? C'est une question, bien sûr, pour vous trois. On voit quand même que les marchés d'échange sont extrêmement nerveux. La livre a perdu pas mal de sa valeur par rapport à l'euro et au dollar.
Il faut revenir pour comprendre sur ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on parle de Brexit? Pourquoi est-ce qu'on a forgé ce terme? Parce que c'est un saut dans l'inconnu. Hein, le Brexit, c'est la continuité, même si derrière, il y a des choses qui seront à reméditer. Mais le Brexit, c'est un saut dans l'inconnu. Et les marchés, que ce soit les marchés d'échange ou les marchés boursiers, l'inconnu, c'est ce qui leur fait le plus peur.
Ils détestent cela.
Et donc, il est assez logique de voir lorsque la preuve... Parce que ça fait simplement quelques semaines, quelques jours pratiquement, que la probabilité du Brexit jusqu'à... Il y a très peu de temps, la probabilité du Brexit semblait plus faible, enfin reculer, celle du Brexit monter. Et ça explique une partie de ce qu'on a observé sur le cours de la livre. Lorsque les marchés anticipent qu'on fait un saut vers l'inconnu, eh ben ils se crispent, ils vendent, et la devise et la bourse. Et c'est ce qui s'est passé. S'il y avait effectivement un Brexit, on peut penser que ça se poursuivrait pendant un petit moment, des deux côtés d'ailleurs, sur la bourse et sur le marché d'échange.
Mais est-ce qu'il y a un vrai risque de bouleversement monétaire, alors ce qui nous atteindrait aussi? Non, vous n'y croyez pas,
oui,
Catherine
non,
Mathieu?
Oui, non, moi non plus. Je pense qu'effectivement, à court terme, il y aura probablement une chute de la livre et une chute des cours boursiers. Alors si quand même on replace un peu le niveau de la livre aujourd'hui par rapport à sa moyenne de long terme, on a quand même un taux de change de la livre qui est relativement élevé, notamment par rapport à l'euro. Et on a un déficit commercial du Royaume-Uni vis-à-vis de la zone euro qui est très,
très
important. Et donc en fait, je dirais du point de vue économique, ça n'est pas si mal pour le Royaume-Uni que la livre baisse, parce que ça va rendre les exportations britanniques plus compétitives. Donc indépendamment de la question de l'incertitude sur les marchés à très court terme, c'est plutôt une bonne chose que la livre baisse.
Et même si on regarde un tout petit peu plus loin, imaginons qu'on ait effectivement Brexit, la livre va baisser, et c'est sans doute un des facteurs qui permettra à moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon de l'année prochaine, la fin de l'année prochaine, à l'économie anglaise d'aller un tout petit peu mieux, tout simplement parce qu'effectivement, une baisse de la livre, s'il y avait le choc d'incertitude lié au Brexit, qui aurait comme effet de ralentir la conjoncture britannique, eh bien le soutien apporté par une baisse du change serait extrêmement appréciable. C'est ce qui permettrait petit à petit à l'économie britannique de remonter un petit peu. Alors que la première phase, en cas de Brexit, ce serait d'abord un coup d'arrêt à l'investissement des entreprises, un choc assez négatif. Donc les marchés ont un réflexe, qui est celui de faire baisser et la bourse et le change. Une partie de ce réflexe, en tout cas le côté change, eh bien c'est quelque chose qui à moyen terme sera une bonne chose. S'il y avait un Brexit pour l'Angleterre.
On dit qu'il s'y prépare, jusqu'en Asie d'ailleurs, que ce sera une longue nuit et que chacun est en train de fourbir ses armes, y compris, chez des gestionnaires actifs comme
chez vous. Il faut bien comprendre ce que font les marchés, ils réagissent. Il y a une nouvelle qui n'était pas totalement, qui n'était pas complètement anticipée, et à partir du moment où elle n'est pas complètement anticipée, vous avez une réaction réflexe qui se déclenche. La direction de ce qui se passe, on la comprend, elle est logique. Il y a un saut vers l'inconnu. En attendant, vous sortez et de la bourse et de la devise pour voir comment les choses vont se passer. Et tout ça n'est pas forcément déstabilisateur.
Philippe Ascanesi.
Oui, et ce d'autant plus qu'en fait, les autorités monétaires se préparent à ce scénario depuis des mois.
Ouais.
Il y a même des coordinations. S'il y a Brexit, il y aura une coordination à la fois, que ce soit la Banque du Japon jusqu'à la Fed américaine, en passant par la Banque Centrale Européenne. La Banque d'Angleterre elle-même prépare ce scénario sans l'avouer vraiment, parce que ça donnerait une crédibilité au Brexit, mais depuis des mois et des mois, et notamment cette situation d'effondrement de la livre qui quand même est vue du côté britannique comme assez inquiétante. C'est-à-dire qu'il y a une peur que ça se traduise par une inflation importée extrêmement rapide, parce que justement l'investissement ayant patiné depuis de nombreuses années en Grande-Bretagne, il n'y a pas de capacité exportatrice très marquée dans ce pays.
Les importations vont se renchérir, non? Enfin, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, c'est le système de productif britannique industriel qui, lui, est quand même affaibli depuis longtemps. C'est une économie profondément de service. services. Et le choc que représenterait une chute de la livre, et aussi, il faut se rendre compte, lorsque on est un Français qui décide de partir en Grande-Bretagne, certes, du coup, on peut dire c'est neutre, cet effet monétaire, mais quand même, lorsque vous allez faire la traduction en livre de votre salaire en euros, c'est une perte de 20%, et vous dites, bon, peut-être je ne serai pas... Il y a un effet richesse qui va disparaître, donc toute une série d'éléments d'attractivité de la Grande-Bretagne qui vont en partie s'évanouir et qui inquiètent. On est tous d'accord, je pense que c'est un saut dans l'inconnu qui va en plus perdurer pendant longtemps.
Je vais réagir à Catherine Mathieu, cette analyse.
Sur le saut dans l'inconnu, je pense qu'on est tous d'accord. Sur le fait que l'effet dure longtemps, je ne suis pas si sûre que vous. Et il faut bien voir aussi sur l'élément baisse de la livre aujourd'hui et le renchérissement des coûts, notamment des matières premières importées. Il faut bien voir quand même qu'on est dans une situation où il n'y a pas d'inflation actuellement. Hein, on a une inflation à 0%. Donc même si la livre baisse et même s'il y a de l'inflation importée, sachant que par ailleurs, on a des prix des matières premières qui restent très faibles à l'échelle mondiale, on a quand même de la marge avant que la Banque d'Angleterre rejoigne la cible d'inflation qu'elle est supposée respecter, qui est une inflation de 2% en rythme annuel. Donc en fait, on est plutôt dans une situation un peu favorable pour que la livre puisse baisser sans poser trop de problèmes à l'économie britannique. Et sur le fait que l'économie britannique soit une économie spécialisée en services, c'est vrai, mais on voit quand même un redémarrage de l'industrie et de certains secteurs, notamment dans l'automobile, dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, depuis plusieurs années. Et le fait que la livre baisse, ça serait sans aucun doute un avantage pour le système productif britannique, même s'il serait moins important que pour l'économie allemande, par exemple.
Oui, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'un pays très désindustrialisé. Vous avez le sentiment qu'on est en train d'inverser un tout petit peu,
bien sûr, de regagner quelques points
à ce sujet. Antoine Brendel.
Juste parce qu'on évoquait ce à quoi les banques centrales se préparent, parce qu'effectivement, on entend parler tous les jours maintenant de coordination entre banques centrales, etc. Elles se préparent pas tellement à empêcher la livre de baisser, parce que c'est pas ça. Hein, le risque à très court terme, c'est pas un effondrement brutal de la livre. Elle baissera, mais elle va pas s'effondrer. Le vrai risque auquel se prépare la Banque centrale, c'est celui qui est lié au fait que, précisément, l'Angleterre est une économie de services, et plus particulièrement, elle est au centre, c'est la plateforme financière de la zone euro et d'une partie de l'économie mondiale. Autrement dit, le vrai risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des mouvements brutaux au niveau de la microfinance, c'est-à-dire que si vous regardez les marchés de produits dérivés, si vous regardez le rôle de l'Angleterre, elle est au cœur de la circulation financière européenne. Et ce que les autorités ne veulent surtout pas avoir, c'est un blocage, hein, puisqu'il y a même des gens qui commencent à comparer ces affaires à Lehman Brothers, etc. Lehman Brothers, c'était rien de très important, sauf que c'était au cœur de tous les circuits financiers de Wall Street. Et ça...
Et ça a entraîné
beaucoup d'autres choses. Il faut pas trop simplifier. On n'est pas devant un nouveau Lehman Brothers, mais on est devant une économie qui joue un rôle central dans le système financier mondial et en particulier européen. Et on ne veut surtout pas qu'il y ait des plombs qui sautent dans ces circuits. Et donc, les banques centrales sont prêtes à intervenir pour tout de suite que le courant puisse continuer de circuler. C'est pas la livre, c'est vraiment la circulation financière qui est en jeu au niveau.
Quand vous dites les banques centrales, elles sont toutes les banques centrales. On parle du Japon aussi, on parle des États-Unis s'il le faut, et bien sûr la BCE.
On parle de système globalisé. Le système globalisé, c'est un système dans lequel tout doit pouvoir en permanence circuler sans qu'il y ait de panne.
Alors, question encore, le vote, imaginons qu'il y ait un vote effectivement pour la sortie de l'Union européenne, ça ne veut pas dire que c'est un vote contre le modèle économique britannique, hein, j'entends. C'est peut-être un modèle contre le modèle européen, la manière dont fonctionne l'économie dans l'Union européenne, mais est-ce que ce n'est pas le modèle de Grande-Bretagne qui est en cause, ou bien oui ? Question posée par ceux qui pourraient éventuellement se prononcer.
Du côté britannique, le principal point des partisans d'un Brexit, c'est la question de l'immigration, en fait. Hein. Ce n'est pas du tout le modèle économique. Parce que
qui a pris une place très importante.
Le modèle économique libéral qui a été prôné par le Royaume-Uni depuis Margaret Thatcher, depuis le début des années 80, s'est largement implanté dans l'Union européenne. Et David Cameron a obtenu, dans son accord de février dernier, négocié avec les pays de l'Union européenne, à ce qu'il y ait davantage de concurrence qui se mette en place dans l'Union européenne. Donc sur ce point-là, les Britanniques ont obtenu ce qu'ils demandaient. Mais sur la question de l'immigration et d'un frein possible de l'immigration en provenance des pays de l'Union européenne, c'est là que le bât blesse pour le moment. Et David Cameron n'a pas réussi à obtenir des autres pays de l'Union européenne le fait de pouvoir stopper complètement, s'il le souhaitait, l'immigration des travailleurs des nouveaux pays membres. Ce qui aurait quand même été très étonnant, étant donné qu'on a la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne et que les Britanniques trouvent maintenant, enfin du moins un grand nombre d'entre eux, qu'il y a trop de travailleurs en provenance des pays de l'Union européenne chez eux.
Et arrêtons-nous justement sur ce point avec Philippe Askenazy, oui, spécialiste du marché du travail.
Justement, je pense que c'est une remise en cause du modèle économique britannique, c'est-à-dire que la croissance...
Vous voulez dire que si on rejette cette...
Si il y a le Brexit, une remise en cause du modèle qui s'est construit depuis Tony Blair. C'est-à-dire que c'est un modèle qui s'est construit justement sur l'ouverture, de manière assumée, une immigration... importante, bien plus importante qu'en France. On est sur des ratios 3-4 fois supérieurs à l'accueil qu'il y a en France, sur une économie qui s'est bâtie, justement, sur l'accueil de des talents, mais quels qu'ils soient. D'ailleurs, c'est pas un problème de personnes qualifiées, pas qualifiées. On prend le plombier polonais parce que c'est quelqu'un qui va travailler dur et qui travaille plus dur que le plombier britannique, en fait. Et on prend dans la City le français parce que le français va bosser plus dur que le britannique. Et donc, aujourd'hui,
il y a énormément de français à la City,
de la croissance britannique des 15 dernières années s'est construite sur son immigration, et c'est ça sur quoi repose son économie. Et c'est là aujourd'hui où nos collègues britanniques ont des inquiétudes, c'est-à-dire que c'est véritablement sur ce schéma, pas sur les aspects économie libérale ou pas libérale, c'est sur le schéma immigration. Si elle est stoppée, c'est vu comme un élément qui va plomber pendant très longtemps l'économie britannique. Et donc, on est dans tous les cas dans un jeu qui est extrêmement dangereux pour la Grande-Bretagne.
Avec une différence quand même, selon que l'on se place du point de vue des grandes entreprises. On sait que la Confédération des entreprises les plus importantes, à celles qui ont vocation en plus à travailler à l'international, n'est pas forcément la même position que celle des PME. Et là aussi, ça touche à l'emploi et au travail.
Effectivement, ça touche à l'emploi et au travail. Il y a surtout une fracture géographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout des immigrés partout en Grande-Bretagne. Vous allez dans certaines villes moyennes britanniques, c'est des 100% anglais. Enfin, et donc, on a des zones qui ont très largement gagné, qui sont effectivement autour de Londres et du sud-est, plus une série de grandes villes, style Liverpool, par exemple. Et puis, le reste d'une Grande-Bretagne... et surtout une Angleterre plus profonde, où on trouve un tissu peut-être plus important de PME qui est passé à côté de cette stratégie de croissance. Donc il y a aussi le débat européen qui paye une fracture territoriale extrêmement marquée en Grande-Bretagne, qui est encore plus marquée qu'en France.
Pardon, encore un mot, Antoine Brander, puis Catherine Mathieu.
Je pense que ce sujet de l'immigration, il est essentiel, hein, puisque on est tous d'accord pour dire que c'est ça.
Qui fait basculer beaucoup
une partie de l'opinion. Mais c'est pas simplement la concurrence de travailleurs immigrés pour les emplois, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. C'est aussi la concurrence, si je puis dire, des travailleurs et plutôt de la population immigrée pour des services publics qui sont largement déficients. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'Anglais, de citoyens britanniques, qui ont l'impression qu'il y a un encombrement de leurs services publics qui fait que la qualité des services de santé, d'éducation, etc. se dégrade parce qu'il y a trop d'immigrés qui, pour diverses raisons, viennent encombrer le système public. Donc, alors les gens les plus aisés, eux, ils vont dans le privé, comme dans beaucoup d'endroits. Mais les autres, ils sont dans cette situation où ils rejettent en partie l'immigration aussi pour cette raison. Donc ce n'est pas simplement une concurrence pour les meilleurs emplois ou les plus mauvais, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui occupent, ils ne sont pas tous à la City, hein. Il y en a beaucoup qui sont dans les couloirs des hôtels à nettoyer les chambres, etc. etc. Il y a aussi un encombrement des services publics, et il faut bien voir qu'il y a aussi une surestimation des capacités d'accueil de l'Angleterre, et c'est aussi ce qui peut se passer dans d'autres pays où on a ouvert la porte à l'immigration sans voir que derrière il y a une implication, c'est d'augmenter la capacité d'accueil des services publics, ou alors on verra une dégradation de la qualité des services publics se produire, et c'est ce qui se passe en Angleterre.
Je vois Philippe Askenazy brûle de vous répondre.
Mais je prends la main.
Et de même, sans doute, de vous contredire. Oui, Catherine Mathieu.
Oui, aussi pour ajouter qu'il y a quand même eu ce choc très particulier en termes d'immigration de provenance de l'Union européenne depuis 2004, avec l'élargissement de l'Union européenne, et qu'aujourd'hui, on a à peu près autant d'immigrés qui viennent de l'Union européenne au Royaume-Uni que d'immigrés qui viennent des anciens pays du Commonwealth, principalement des anciennes colonies britanniques. Et donc, on est à peu près moitié-moitié. Et dans les argumentaires qui sont donnés par les partisans du Brexit, généralement, il y a le fait que aujourd'hui, au Royaume-Uni, on peut décider de mettre des quotas pour les immigrés qui viennent des pays hors Union européenne, mais pas de ceux de l'Union européenne, et qu'il y a une question de souveraineté qui se pose pour le Royaume-Uni. Et là, on rejoint un point fondamental qui a toujours été très fort pour les Britanniques dans leur appartenance à l'Union européenne, c'est de rester souverain de leurs décisions.
Oui, et ça, ils y tiennent et ils le rappellent. Philippe Askenazy, pourquoi vous n'êtes pas...
Oui, je pense que d'ailleurs, c'est bien plus une question politique qu'une question économique pour les Britanniques. Je rejoins très, très largement là-dessus. Ils parlent beaucoup sur le fait que le pouvoir doit être détenu par Westminster, par leur Parlement. Ils rappellent la Magna Carta qui, justement, fêtait ses 800 ans cette année comme étant un élément fondateur pour eux. Ce qui fait que...
Ça, c'est une position qu'on entend ailleurs en Europe, hein, le sentiment qu'on est dépossédé.
Mais bien, bien évidemment. Alors, ça interroge
aussi... Ils le disent un peu plus que les autres.
Ils le disent... Plus, peut-être, enfin en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas ce qui sera le demain dans un pays comme la France. Pour ce qui est des services publics, pour être au clair, par exemple dans le cas de l'éducation, la Grande-Bretagne a fait un effort absolument considérable pour arriver à accueillir effectivement des enfants d'immigrés et dans le même temps d'améliorer le service public. Donc il n'y a pas une situation, notamment lorsqu'on regarde sur l'éducation, il n'y a pas un ressentiment des Britanniques vis-à-vis de populations étrangères. Même en fait, ce que l'on constate, c'est que dans les écoles où il y a le plus d'immigrés, c'est les jeunes Britanniques qui réussissent le mieux, enfin ils réussissent mieux que dans lorsqu'ils ne sont pas mélangés. Et donc c'est plutôt en fait sur d'autres types de services, style voilà, le NHS. Non, mais on est là où on a eu du mal avant.
NHS, c'est le système de santé.
Très clair, le système de santé qui est un système de santé 100% public. Où les partisans du Remain n'ont pas su expliquer les choses. Parce qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne est quand même largement gagnante. Pourquoi ? Parce qu'elle exporte ses seniors qui vont, par exemple, il y en a de l'ordre de 400 000 en Espagne, qui utilisent les hôpitaux espagnols, enfin, dans la péninsule ibérique, massivement, alors qu'ils ont plutôt, lorsqu'ils importent des immigrés, des populations relativement jeunes qui utilisent finalement relativement peu le NHS. Et donc, dans le système global, d'ailleurs, il y a un système européen où il y a des échanges, où lorsque vous faites soigner en Espagne, c'est en fait quand même la sécurité sociale britannique qui paye. Et donc, on a des comptes européens d'échange. Et la Grande-Bretagne est très largement déficitaire parce que les Britanniques dépensent nettement plus à l'étranger que dans leur pays. Et ça, c'est le genre de message qu'on n'a pas réussi, que les pro-Remain n'ont pas su vendre, expliquer dans le débat.
Non, mais moi, je suis d'accord avec ce qu'Evan dit. Malheureusement, lorsqu'on fait un référendum, ce qui compte, c'est ce que ceux qui vont voter perçoivent. Et que les partisans du Remain se soient mal exprimés, ça me paraît être une évidence. Il n'empêche que le perçu, c'est ce qui compte et c'est ce qui conduit un certain nombre de gens à voter pour le Brexit, ce qui pourrait les conduire à le faire.
Oui, donc petit point, en Grande-Bretagne, contrairement à ce qu'il y a en France, un national qui est hors du territoire ne participe pas au référendum. Donc les Britanniques qui sont en Espagne...
Plus de 15 ans.
Oui, voilà.
Donc, ça fait déjà longue période.
Oui, je suis d'accord. Mais c'est des centaines de milliers qui auraient tous voté massivement pour un maintien. Le même type de référendum en France, déjà, part avec une chance de rester en Europe largement supérieure.
Dernier point, enfin encore un point sur lequel j'aimerais vous entendre. On a beaucoup entendu les menaces à peine voilées de certains politiques européens si l'Angleterre veut vraiment sortir. Après, je voudrais qu'on ait le temps de dire un mot de l'Écosse, qui est un sujet très intéressant, me semble-t-il aussi. Mais si vraiment ils veulent sortir, entre guillemets, on va le leur faire payer. C'est-à-dire que les négociations vont être très dures pour revenir. Le marché unique, ils ne l'auront pas comme ça, ils ont voulu le quitter, etc. Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que ce sont des effets de manche pour influencer la campagne, ou est-ce que réellement le Royaume-Uni prend un risque à ce sujet ?
Non, je pense que ce sont Catherine vraiment des effets de manche, parce qu'en fait, on a tellement d'interrelations.
Rappelons que nous sommes des partenaires très importants, exactement. Évidemment, l'Union européenne,
oui,
pour l'Angleterre.
Exactement. Pour nous, c'est un grand marché. Pour la France, le Royaume-Uni, pour l'Allemagne encore plus. Encore une fois, on a des excédents commerciaux avec le Royaume-Uni. Il y a le rôle des services financiers qui est aussi très important. Et donc, je pense que vraiment, si les Britanniques décident de voter pour le Brexit, en fait, au lendemain de ce vote, toutes les autorités européennes feront tout pour que tout se passe bien.
Et qu'au contraire, dès le lendemain,
oui, je pense,
vous
dès
le mettez
vite. Parce que de toute façon, si on se place simplement du point de vue de, par exemple, des exportateurs allemands, si on commence à dire aux Britanniques qu'on va mettre des barrières douanières aux importations britanniques, les Britanniques de bonne guerre mettront aussi des barrières, et donc les exportateurs allemands, français, etc., seront tout à fait hostiles à ce genre de mesures. Donc très vite, la réalité des liens économiques et financier, je pense, jouera pour qu'on minimise les effets du Brexit.
Même analyse, Anton Brander.
C'est un des scénarios. Moi, je suis un tout petit peu moins optimiste. Non, mais on comprend
c'est
bien la logique.
C'est un des scénarios, absolument.
Mais le problème, c'est qu'il faut regarder maintenant du côté européen. Du côté européen, il y a quand même une assez grande confusion en matière de qui dirige les choses, qui est d'accord avec qui. Il y a une grande faiblesse aujourd'hui des gouvernements européens. Quand on regarde la France, quand on regarde l'Allemagne, il y a des élections qui se profilent un peu partout, il y a des pays qui n'ont pas de gouvernement, etc. Et donc, moi, ce que je crains plus, c'est un certain chaos dans la négociation qui peut mener, et c'est pour ça que l'inconnu, il est des deux côtés. Du côté anglais, il y a un saut dans l'inconnu, mais du côté européen, il y en a un autre. C'est qu'est-ce qu'on va négocier, qui va mener les négociations, vers quoi on va vouloir aller. C'est vrai qu'on risque d'être ramené petit à petit vers une espèce de statu quo, hein, tout simplement parce que c'est une espèce de ligne de plus grande pente. Mais c'est pas complètement certain quand on voit la dynamique que peut prendre la négociation entre les pays européens pour savoir qu'est-ce qu'ils vont dire comment ils vont négocier avec l'Angleterre. Quand on voit qu'il y a un certain nombre de majorités qui doivent se prononcer, que certains pays peuvent bloquer, qu'il y a des intérêts qui sont pas toujours les mêmes, etc., etc. Moi, je suis un tout petit peu plus nuancé, hein, sur l'issue et la rapidité de la négociation, tout simplement parce que du côté européen, on n'est pas dans une forme terrible, ouais, pour négocier clairement
et
avec
au fait,
un pays.
Et au fait, un départ de l'Union européenne pour le Royaume-Uni signifierait qu'ils vont s'affranchir de leur fameuse contribution annuelle, celle qui agaçait tant Margaret Thatcher. Oui. C'est un manque à gagner pour nous tout de même.
C'est un manque à gagner, mais c'est quand même relativement petit, hein, parce qu'à l'échelle européenne, on a un budget d'1%.
Ils avaient bien négocié.
Oui.
Ils avaient bien négocié.
Pas évident.
Philippe, parce qu'elle
a un scénario, je ne sais pas. C'est-à-dire que on a une très grande inconnue politique. C'est-à-dire si on est conciliant avec les Britanniques, c'est clair que l'AFD en Allemagne, le Front National en France dira regardez, on peut sortir de l'Europe sans risque. Et je crois que si ce discours-là prend, étant donné l'arrivée des élections françaises en 2017 et allemandes, eh bien justement là, les gouvernements français comme allemands seront très durs vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Donc on est là, on ne sait pas du tout.
Quand même, oui, vous pensez
où
cela.
On va.
Bah, il faut Catherine bien. Moi, je pense. Oui. Moi, je suis plus optimiste que vous sur ce point-là, parce qu'en fait, le Royaume-Uni a quand même eu toujours une position à part dans l'Union européenne, n'a pas choisi d'entrer dans la zone euro, a gardé donc une politique monétaire, une banque centrale, une politique budgétaire autonome, a une taille qui est importante, hein, la troisième économie de l'Union européenne. Donc des éléments qui font que ça sera très très différent de ce qui pourrait être tenté par d'autres pays de la zone euro et d'autres pays plus petits.
Eh bien, on en reste là de vos analyses et même de vos pronostics. Encore quelques jours à attendre après une campagne d'une assez grande violence verbale. On est frappé quand on lit la presse anglaise et bien entendu également des circonstances assez dramatiques ces derniers jours. Les 2-3 minutes qui nous restent, je voulais vous demander à chacun de venir avec un chiffre. L'avez-vous fait, Anton Brander?
Oui.
Et donc?
Vous voulez le chiffre? 1,6, oui. Mais j'en ai un autre derrière.
Alors, 1,6 pour...
Je vous le dis tout de suite?
Oui.
C'est la révision qui a été publiée par l'INSEE il y a quelques heures de la croissance française cette année.
Je l'avais imaginé, très bien.
Celui qui est derrière, c'est 1,8, parce que ça, c'est la révision que l'IFO a fait juste un jour avant de la croissance allemande. C'est pour dire que l'Europe va, quoi qu'on en dise, et malgré les incertitudes, a l'air d'aller quand même nettement mieux qu'il y a un certain temps, même si ça ne va pas encore très très bien.
Et qu'on ne le dit peut-être pas assez.
Certains le disent beaucoup.
Je me permets de l'ajouter. L'OFCE nous a toujours dit qu'à partir d'1,5 de croissance, la courbe du chômage s'inverserait. On y va tout doucement.
Alors moi, je vais vous donner mon chiffre, moins 0,2.
Catherine Mathieu, moins 0,2, d'accord.
Et je vous dis ce que c'est.
S'il vous plaît.
C'est le taux d'intérêt à 10 ans des obligations allemandes. C'est la première fois que le taux des obligations allemandes est devenu négatif, hein, il y a quelques jours. Et donc moi, ça me semble plutôt une indication assez, peut-être un peu pessimiste, hein, sur la situation qu'on a en termes de taux d'intérêt et de perspectives de croissance dans la zone euro. Parce que des taux d'intérêt négatifs pour... pas du tout. Donc on a un peu quand même l'impression que les marchés aujourd'hui cherchent où placer leurs actifs dans des endroits sûrs et sont même prêts à avoir des taux d'intérêt négatifs comme en Allemagne.
Philippe Askenazy, enfin,
oui,
quelques secondes.
Alors moi j'ai le plus gros chiffre, 65, qui a été publié en début de semaine. C'est en nombre de milliards de dollars le marché mondial de l'armement, enfin les imports-exports d'armement. C'est surtout, ça m'a surpris, enfin c'est une très forte augmentation. Ce qui m'a surpris, c'est l'accueil de ce chiffre qui a plutôt été très positif. On a dit, regardez, voilà, ça va mieux d'une certaine manière. Alors que je trouve que c'est particulièrement déprimant qu'il y ait une course à l'armement à travers le monde.
Merci à tous les trois, à l'instant Philippe Askenazy, Anton Brander et Catherine Mathieu pour vos analyses, vos commentaires. Merci à notre petite équipe aussi, Ghislaine David était aujourd'hui avec Yanis Djoudad, merci à tous les deux et bien sûr à Laurence Genepin. préparation, documentation, venez nous retrouver sur notre site L'économie en question et même sur Twitter. Tous vos commentaires sont les bienvenus. À la semaine prochaine.